informations qui sont présentées par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La Corée du Nord n'a peur ni des sanctions ni des condamnations internationales. Kim Jong-un défie à nouveau l'ONU qui a condamné unanimement le tir de missile d'hier. En début de journal, nous joindrons Dominique André à Pékin. Libre, expulsé par la Turquie où il était détenu depuis 51 jours, le journaliste Lou Bureau est attendu sur le sol français en fin de journée. Avec Franck Matvon, nous tenterons de savoir comment la diplomatie française a réussi à arracher sa libération. Les associations de policiers en colère relancent leur mobilisation à travers le pays contre les conditions de travail indignes qui leur sont imposées, contre le mépris de leur hiérarchie. Ils manifesteront tout à l'heure. Nous entendrons l'un des porte-parole de leur mouvement à Marseille. Dans ce journal également, nous ferons un détour par la fête de l'humanité où le PCF essaie d'unir les forces de gauche pour faire prendre la mobilisation de cette rentrée sociale. Et nous reviendrons sur cette polémique à l'Agence européenne de sécurité des aliments. Le rapport qui conclut au caractère non cancérogène du glyphosate contient des pages entières copier-coller sur des argumentaires fournis par Monsanto, scandaleux et profondément inquiétant, nous dira Suzanne Dahl de Greenpeace. Et puis il y a aussi le deuxième invité des matins du samedi qui vient d'entrer en studio, Caroline.
Et qui ira cet après-midi à la fête de l'UMA. Gérard Filoche, notre invité, ancien inspecteur du travail et membre du bureau national du Parti Socialiste.
A tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, je vous propose d'écouter un témoignage rare, une voix qui nous vient du Yémen, pays ravagé par 2 ans et demi d'une guerre qui se joue bien au-dessus de lui. Cette voix, c'est celle d'Amal Bacha, dans la tourmente meurtrière qu'est devenu son pays. Elle dirige le Forum des Sœurs Arabes pour les Droits de l'Homme, une ONG régulièrement menacée dans ses actions. Amal Bacha était à Paris hier pour tenter d'alerter la diplomatie française sur ce que traverse son pays. Nadine Epstein a pu la rencontrer pour France Culture.
Ce n'est plus un pays du tout. C'est une vraie catastrophe. Sur tout le territoire, plus rien ne marche. Il n'y a pas de sécurité, pas de services sociaux, médicaux, alors que le choléra fait des ravages. Cela fait des lustres que les salaires des fonctionnaires n'ont pas été versés et des millions de Yéménites qui vivent avec zéro copec ne peuvent plus nourrir leur famille. 80% de la population n'ont pas de quoi manger actuellement. Des millions sont touchés par le choléra et beaucoup en meurent. Les combats se poursuivent entre les Houthis et les différents groupes armés. Il y a des salafistes, Al-Qaïda, Daesh, les frères musulmans. N'oubliez pas qu'en fait, ce n'est pas une guerre du Yémen, c'est une guerre régionale sur le terrain du Yémen. L'Arabie Saoudite, l'Iran s'y battent pour leurs intérêts, pas les nôtres.
Amal Bacha, donc, et la Fédération internationale des droits de l'homme qui ont été reçus hier à l'Élysée et au Quai d'Orsay. Ils en ont profité pour exhorter la France de suspendre sa coopération militaire avec l'Arabie Saoudite qui mène donc la coalition arabe en guerre au Yémen.
La Corée du Nord enfonce le clou. Kim Jong-un réaffirme que ni les condamnations ni les sanctions internationales ne l'empêcheront d'obtenir l'arme nucléaire.
Nous n'avons jamais été aussi près du but. Le dictateur nord-coréen l'a dit ce matin, quelques heures après la condamnation unanime par le Conseil de sécurité de l'ONU de ce nouveau tir de missile nord-coréen au-dessus du Japon. C'était hier un acte hautement scandaleux et provocateur selon les Nations Unies. Pas de quoi ébranler pour autant d'un pouce la course à l'atome de Pyongyang. On voit ça depuis Pékin avec Dominique André.
Quelques heures après la condamnation du Conseil de sécurité, Kim Jong-un défie une nouvelle fois le monde. Il affirme se rapprocher de son but, détenir l'arme nucléaire. Le tir d'hier est un succès, dit-il, qui permet d'augmenter les capacités nucléaires militaires de la Corée du Nord, malgré le blocus. L'expert chinois Cheng Xiaore estime que Kim Jong-un poursuivra ses essais contre tous.
Kim Jong-un n'a peur de personne, il n'a pas peur de la Chine, il n'a pas peur des États-Unis, il n'a pas peur de l'ensemble de la communauté internationale. On peut dire qu'il est le leader d'un pays qui n'a peur de personne. À cause de cette attitude, il met son pays dans une situation très dangereuse.
Kim Jong-un justifie son programme par la nécessité de se protéger des États-Unis. Le cœur du problème, c'est l'opposition entre la Corée du Nord et les États-Unis, a réagi hier le ministère des Affaires étrangères chinois.
Dominique André à Pékin pour France Culture. La liberté après 51 jours en prison pour Lou Bureau. Le journaliste a été libéré hier, donc il reste poursuivi tout de même par la justice turque pour des accusations de connivence avec la rébellion kurde, sur laquelle il avait tout simplement réalisé des reportages ces derniers mois. Cette libération, en tout cas, elle intervient alors que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, rentrait hier de 2 jours de visite officielle entre Ankara et Istanbul. Un succès donc pour le Quai d'Orsay, Franck Matvon.
Bien sûr, la diplomatie française a joué un rôle dans la décision de la justice turque. C'est juste après la visite à Ankara de Jean-Yves Le Drian que l'on a appris la remise en liberté de Lou Bureau. Le ministre des Affaires étrangères a notamment été reçu par le président Erdogan. Le dossier était considéré comme prioritaire par l'Élysée. Difficile de savoir s'il y a des contreparties. Le Quai d'Orsay se contente de parler d'un succès de la diplomatie française, d'un travail de fourmi qui a porté ses fruits. Une certitude, la France ménage un peu plus la Turquie que l'Allemagne. Paris martèle par exemple que les relations entre la Turquie et l'UE sont essentielles. Le président Erdogan, lui, ne peut pas se fâcher avec toute l'Europe. Il est par ailleurs soucieux de l'image de son pays à l'étranger. Il était donc dans son intérêt d'en finir avec cette affaire. Il a toutefois, une fois de plus, montré les muscles, imposé un bras de fer à la France, qui a dû attendre plus de 50 jours la remise en liberté de son journaliste.
Franck Matvon et Lou Bureau, donc attendus ce soir en France, peut-être demain matin selon les vols qu'il pourra prendre pour rentrer donc de Turquie. Ce n'est pas forcément la mobilisation sociale qu'on attendait en cette rentrée sociale déjà tendue en France, mais ce sont bien les policiers en colère qui vont manifester aujourd'hui dans 7 villes du pays, dont Paris bien sûr. Leur fronde, on s'en souvient, avait culminé l'été dernier après l'agression au cocktail Molotov de plusieurs de leurs collègues. Depuis, le mouvement avait tendance à s'essouffler. Eh bien, il pourrait repartir aujourd'hui. Depuis des mois, les policiers dénoncent les conditions de travail inacceptables imposées par les réductions de budget et de moyens. Les manifestations d'aujourd'hui se font à l'appel d'associations et non pas de syndicats de police, sévèrement critiqués eux aussi au passage. Gérard Rivière est le porte-parole des policiers en colère à Marseille.
On va pas tailler les syndicats, c'est pas le but, ils ont leur intérêt. Mais je pense qu'ils ont oublié leurs fonctions initiales, les syndicats. Ça tractionne avec l'administration, et je te donne ça, et tu me prends ça, ça échange. Bon, franchement, quand on voit les moyens de la police et le niveau de la sécurité actuellement pour les policiers, mais et aussi pour les citoyens, on voit bien quand même que les syndicats ont dû s'endormir sur leur laurier depuis quelques années, quelques décennies, dirais-je. Ce qui m'a le plus choqué, c'est, comment dire, je cherche le mot, c'est la façon dont on nous méprise. Les policiers qui manifestent dans la rue, là, qui vont dans la rue, ce sont des gens qui travaillent, ils n'ont pas de mandat pour ça, ils font tout ça sur leur temps libre, les réceptions des appels des collègues, la réception des photos. On a 23 000 sympathisants sur les réseaux sociaux qui nous suivent. Donc c'est bien qu'il y ait un problème. Il y a du matériel qui commence à arriver, il y a eu réellement du matériel qui est arrivé dans les unités spécialisées, certes, mais dans la police de voie publique, celle que l'on voit tous les jours, nous sommes l'arrivée en Europe. Regardez la police italienne, regardez la police allemande, regardez la police espagnole, vous allez voir d'autres moyens, une autre considération par rapport à la police.
Voilà ce retour donc de la mobilisation des policiers en colère. On en parle tout de suite avec l'invité de la deuxième heure des matins du samedi. Bonjour Gérard Filoche.
Bonjour.
Vous êtes, on le sait, une figure de l'aile gauche du PS, ancien inspecteur du travail. Les mobilisations sociales, ça vous connaît. Alors celle des policiers, c'est une mobilisation parmi d'autres dans le contexte actuel?
Ben, il est légitime que, comme fonctionnaires, ils aient tous leurs droits. On parle de millions d'heures supplémentaires impayées. Il faut se rendre compte, ça veut dire pour tous. C'est-à-dire, ils ne voient pas leur famille, ils ont des horaires épouvantables, ils sont soumis à des conditions draconiennes à cause de tout l'état d'urgence qui n'est pas si nécessaire que ce qu'on dit. Et puis, on ne les paye pas. Alors, vous rendez compte, on ne les paye pas.
Alors, ce ras-le-bol qui va s'exprimer encore aujourd'hui.
Comment c'est acceptable? Qui peut accepter de faire des heures supplémentaires impayées? Alors, je sais que ça existe dans le privé. Il y a 1 milliard d'heures supplémentaires impayées. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. Mais c'est insupportable aussi bien dans le privé que dans le public. Et on ne peut pas accepter que Monsieur Macron et le gouvernement n'honorent pas les obligations qui sont les leurs.
Et ce ras-le-bol qui devrait s'exprimer à nouveau aujourd'hui, vous pensez que ça peut jouer un rôle plus largement dans le contexte social
tout
de cette rentrée avec la mobilisation qui monte contre les politiques
d'Emmanuel Macron?
Tout ce qui défend
le droit du travail privé et public est légitime aujourd'hui.
Les forces contre de l'ordre sont en première ligne
réduire,
face aux manifestants.
Contre un État qui veut réduire à tort les déficits, contre un État qui veut réduire, qui veut faire de l'austérité à tort, et qui va faire mal au pays entier, et pas seulement à ses policiers.
Très bien, on va reparler plus largement des mobilisations de cette rentrée. Et puis il y a un autre sujet qui va vous faire réagir, vous en parlerez tout à l'heure avec Caroline Brouet, Gérard Filoche. C'est la fête de l'humanité lancée hier à la Courneuve, concerts et débats politiques jusqu'à dimanche soir. En cette première rentrée sociale donc de l'ère Macron, les préavis de grève se multiplient pour ces prochaines semaines. Et l'on parle beaucoup, bien sûr, dans les allées de la fête de l'UMA, d'union des forces à gauche, de convergence des mobilisations. Un reportage signé Sophie Delpont pour France Culture.
Parmi les stands, plusieurs actions pour mobiliser contre la loi travail.
Signez la pétition contre les ordonnances Macron. On les porte à l'Élysée le 22 septembre.
Fabien est militant à la Fédération communiste du Val-de-Marne. Pour lui, l'objectif numéro un de cette fête de l'humanité, c'est la mobilisation du 21 septembre prochain.
Convaincre qu'il faut que le 21, il soit dans la rue pour faire doubler les chiffres des manifestations.
Pour la suite du calendrier, le Parti communiste enverra une délégation à la marche de la France insoumise le 23 septembre. Julien est militant PCF, il n'ira pas manifester ce jour-là.
C'est le blocage économique, pardon, c'est pas une marche politique, quoi.
Son amie Pauline est-elle militante à la France insoumise? À 27 ans, elle est lassée par les querelles d'égo entre dirigeants politiques.
En tant que citoyenne, on n'en a rien à faire, en fait, des étiquettes. Étiquette insoumise, étiquette PCF, étiquette de quoi, on s'en fout. Vous êtes de gauche, vous avez des idées en commun. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ensemble pour bien vivre?
Attablé au stand d'à côté, Alain, 61 ans, membre du Parti communiste et sympathisant France Insoumise, souhaite l'union des forces de gauche.
Je pense qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, ils sont 99% d'accord pour moi. Je voudrais les choper, les prendre dans mes bras et leur dire « embrassez-vous ». Quoi.
Il regrette l'absence de Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'UMA. Dommage que le premier opposant soit le premier absent, déclare cinglant le porte-parole du Parti communiste.
Sophie Delpont à la fête de l'humanité avec donc l'absence de Jean-Luc Mélenchon qui est en déplacement à La Réunion, le leader de la France insoumise qui est, selon un sondage BVA pour l'Obs, la personnalité qui incarne le mieux l'avenir de la gauche en France. Ça vous inspire quoi ce sondage-là sur l'avenir de la gauche avec Mélenchon, Gérard Filoche?
La gauche, c'est pas une personnalité, c'est un maillage de partis, de syndicats, d'associations sur tout le territoire. Plus elle est unie, plus elle est implantée en profondeur et moins on parle de personnalité, plus la gauche est forte.
C'est quelque chose qu'il faut rappeler à Jean-Luc Mélenchon?
Le jour où Jean-Luc Mélenchon deviendra unitaire, la gauche aura fait un grand pas en avant tout entière.
Merci Gérard Filoche. Allez, puisqu'on parle politique, enfin j'ajoute que le Parti radical valoisien, le plus vieux parti de France, c'est vrai, organise à Montpellier ce week-end ses journées d'été. Dans le journal de 9h avec Stéphane Robert, nous verrons comment les radicaux se fondent dans le nouvel espace politique macronien, ni droite ni gauche. Ça leur convient bien au point de se rallier, c'est imminent, avec La République en marche. Copier, c'est mal, d'autant plus quand il y a des vies en jeu. L'Agence européenne de la sécurité des aliments, l'EFSA, est accusée d'avoir copié-collé ses conclusions sur la non-dangerosité du pesticide glyphosate sur des documents publiés par le fabricant de cette molécule, Monsanto. C'est aussi scandaleux qu'inquiétant sur l'indépendance de nos organismes de contrôle. C'est l'analyse en tout cas de Suzanne Dalle de Greenpeace.
Sur des paragraphes et des pages entières, on retrouve des copier-coller. Mais mot pour mot, entre le document soumis par Monsanto et le travail qui a été fait par l'EFSA. Et notamment les sections qui parlent des impacts sur la santé. Donc de tous les problèmes liés à la génotoxicité, au caractère cancérigène et à la toxicité reproductive. Ce qui est en soi absolument scandaleux, puisque l'EFSA est censé conduire ses évaluations, ses avis de manière indépendante et émettre des conclusions de manière indépendante.
Faire des évaluations, on va dire objectives.
Oui, autant que faire se peut. Mais en tout cas, dans un monde idéal, l'EFSA devrait faire en sorte de se prémunir de tout conflit d'intérêts et devrait elle-même réévaluer chacune des études qui lui sont proposées. Et le vote qui va avoir lieu début octobre, au cours duquel les États membres vont devoir se positionner pour ou contre le renouvellement de l'autorisation du glyphosate, ils vont fortement s'appuyer sur les conclusions de cette étude. C'est pour ça que ça a aussi un impact aussi important de découvrir ça. c'est que ça veut dire qu'on se base sur les conclusions d'une étude complètement faussée pour prendre la décision de réautoriser pour 10 ans le glyphosate en Europe.
Suzanne Dalle, la chargée de mission agriculture chez Greenpeace, répondait à Véronique Robérot. Un mot de la météo, enfin, une météo franchement automnale et fraîche encore aujourd'hui. Ce matin, il y a des brouillards qui s'accrochent sur les pays de la Loire, sur la Bourgogne et jusqu'aux frontières de l'Est. Il y a des pluies qui vont rester toute la journée bien accrochées également sur la Manche et même sur la Corse, plus surprenant. Les averses vont donc rester actives cet après-midi sur une majorité de l'Hexagone avec des températures qui seront comprises, comme température maximale, en dessous de 20 degrés, 13 à 18 sur la moitié nord du pays, de 19 à 24 à mesure que l'on se rapproche de la Méditerranée.